les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo, tous les dimanches à 13h, rediffusion le mardi à 23h. Et aujourd'hui, Rosendo, tu reçois Hugues Dedi.
Bonjour à tous et bienvenue à notre émission hebdomadaire. J'ai le plaisir de vous présenter Hugues Dedi, qui est un électron libre, comme il s'appelle. Et moi aussi, je pourrais l'appeler comme électron libre, surtout parce qu'il est dans les domaines du graphisme, de la musique, et que vous allez connaître, c'est assez diversifié. Il va nous faire une présentation de ses goûts musicaux, de ce qu'il écoute. Mais avant tout, je l'ai connu parce que c'est un homme très, très sensible à la littérature. Ensuite, j'ai découvert ses grandes capacités graphiques. Et petit à petit aussi, j'ai découvert sa création filmique parce qu'il a fait un film sur Montauban. Donc, nous allons parler de tout ça. Et bienvenue à notre émission, Hugues.
Bonjour, Rosendo.
Comment vas-tu?
Je vais très très bien.
Alors, c'est ta rentrée. C'est toi, tu sais, tu es l'invité qui commence à défiler ici à notre rentrée de cette émission. Et j'ai le plaisir parce que cette émission veut se concevoir comme une espèce de synthèse de la musique, les arts plastiques, les arts graphiques et surtout de la littérature. Ou peut-être la hiérarchisation n'est pas dans le bon sens, mais tu résumes tout cela. Est-ce que cette présentation que je te fais de l'électron libre et de résumé de tous ces arts, de cette pratique, pourrait-elle te convenir, Hugues?
Oui, elle me convient très très bien. On pourrait ajouter peut-être la discrétion. C'est vrai que je suis discret, donc à part lorsque je fais quelque chose qui nécessite la présence d'un public. Donc effectivement, il y a de la communication. Voilà, on peut me voir, on peut m'entendre. Sinon, je demeure relativement discret. Et je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit ou derrière mon écran qu'en public ou même à la radio. Ça m'arrive de faire de la radio, je ne m'écoute jamais, je me trouve toujours très 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 mauvais quand je m'écoute, alors que je suis beaucoup plus satisfait de moi quand je me lis que quand je m'écoute.
Bon, cette timidité que tu assumes ne t'a pas empêché quand même de te faire connaître à Montauban, parce que tu étais et tu es encore un personnage public, je te le dis encore, parce que tu continues à faire des lectures, tu continues en haute voix, tu continues à présenter d'autres écrivains. Et c'est vrai que ta timidité ou ta discrétion ne te fait pas présenter ton propre travail, parce que je n'ai pas vu encore une exposition à toi. Je vis ton travail graphique par Internet, par ces moyens électroniques, mais je n'ai pas vu une exposition comme tu pourrais bien le faire. Et donc, je t'ai connu, en fait, d'abord comme gestionnaire, propriétaire, chef d'entreprise du comptoir de Sildavie. Et ensuite, j'ai vu comment tu te débrouillais très bien devant un public pour présenter un écrivain, pour présenter un artiste. Et est-ce qu'on pourrait appeler ça de la timidité, Hugues?
Oui, mais il faut encore l'expliquer. Oui, je crois que je suis vraiment quelqu'un de timide. C'est-à-dire que le public m'impressionne. Je suis capable, même là, à la radio, il n'y a personne, il n'y a que toi et moi, et des auditeurs, mais je ne les vois pas. Je suis malgré tout impressionné. Et je sais que ma langue peut trébucher parce que je suis impressionné. Et je n'aime pas trébucher. En même temps, je dois dire que j'aime ce contact avec le public. Il m'impressionne, il me fait perdre mes moyens, mais j'aime présenter au public des auteurs, j'aime par-dessus tout lire, et j'aime ressentir au présent l'émotion d'un public et en même temps jouer avec cette émotion. J'aime ça, c'est quelque chose à laquelle je suis attaché, je suis sensible, mais ça me fait toujours peur. Alors Timidité, il faut l'expliquer aussi, parce que bon, j'ai quand même un peu de bouteille maintenant, j'ai de l'âge, j'arrive vers mes 50 ans, donc maintenant j'arrive à gérer ma timidité, j'arrive à prendre la parole en public, mais généralement, ce que les gens ne savent pas, quand j'ai une prestation publique qui nécessite une prise de parole en public, je prépare énormément les choses. Par exemple, je ne fais jamais une lecture comme ça improvisée en public. Je prépare également la façon dont je vais présenter des auteurs ou la façon dont je vais me présenter au public. C'est pourquoi cet exercice de radio aujourd'hui est extrêmement difficile. Parce que je ne peux rien préparer. Je réponds à une interview naturellement. J'aurais préféré faire une interview écrite, tu vois. J'aurais passé des heures à répondre par écrit aux questions. J'aurais pu être tout à fait satisfait de mes réponses que j'aurais retravaillées, etc. Là, il n'y a pas de réécriture. On peut pas réécrire la parole orale, quoi. Elle est au présent. Et justement, c'est ça ma difficulté. Je sais que je n'écouterai pas cette émission. Mmh. Parce que je n'aime pas m'écouter au présent, parce que je fais toujours une analyse des choses au passé, au futur, jamais dans l'instant présent. C'est-à-dire vraiment une parole qui part et puis qui s'évanouit une fois qu'elle est partie.
Bien, la parole là donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut moins maîtriser que l'écriture, mais peut-être que la compensation se trouve du fait que la parole est volatile, et peut-être on va vite nous oublier, tandis qu'en écrit, une peinture, un graphisme, surtout tes graphismes dont on va parler dans cette émission, c'est quelque chose qui reste et qui est assujetti à une analyse, à une observation. Et Hugues, je vais t'inviter à parler de tout cela, mais avant de passer au développement de tes influences artistiques, de tes travaux, autant graphique comme aussi de tes textes, je voudrais faire une chose un peu exceptionnelle à cette émission, parce que, étant donné que tu es aussi quelque part musicien, et j'espère ne pas t'offenser si je te dis quelque part.
Non, pas du tout, non.
Et j'aimerais que tu fasses une présentation générale des trois choix de cette émission, de tes trois choix musicaux, et ensuite on écoutera la première, et après on développera, après cette première, tu désannonceras, c'est-à-dire tu vas expliquer pourquoi tu l'as choisi, non ? D'abord, explique-nous cette présentation générale de ces trois musiques qu'on va écouter.
Ce qu'on peut dire pour les présenter, c'est que ça a été très difficile d'abord de choisir trois morceaux parce que j'écoute vraiment, enfin pas beaucoup de musique, mais beaucoup de musique dans des genres très variés. Et je les écoute exactement avec la même oreille. Alors d'abord, je veux dire ce que c'est qu'écouter. Quand j'écoute une musique, je ne parle pas. Je reste silencieux. Et quand j'écoute une musique avec quelqu'un, j'apprécie que cette autre personne fasse silence. Ce qu'il faut dire également, c'est que donc j'écoute des genres extrêmement variés. Je peux écouter du métal, donc quelque chose entre guillemets plutôt violent, une musique très sonore, très brutale. Je peux écouter cette musique-là, enfin j'écoute cette musique-là avec la même oreille qu'une musique classique du Purcell, par exemple, où les choses sont beaucoup plus mesurées, calmes. Pour moi, c'est exactement la même chose et je les écoute de la même manière et ces musiques peuvent m'émouvoir exactement de la même façon. Je les écoute également.
Donc, on peut passer à écouter le premier choix musical ?
Alors, le premier choix...
Peut-être, on va l'écouter d'abord et après, tu nous l'expliques, si tu veux bien, Hugues.
D'accord.
Donc, nous sommes avec Hugues Dedi qui va nous faire écouter son premier choix musical. Thank you.
il s'agissait de d'un groupe de punk qui s'appelle ZX. Alors j'aime beaucoup ce groupe parce que c'est un punk un peu évolué, c'est-à-dire que on lâche un peu le côté nihiliste, le côté revendicatif, pour s'aventurer sur des chemins plus
mélancoliques.
Sur des chemins d'abord de l'expérimentation. Et là, ce morceau-là, on a deux personnes invitées. On a Tom Cora.
Qui est violoncelliste.
Voilà. Et puis, Indegull, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui, est violoniste et qui apporte la base de ce morceau puisqu'il s'agit d'un chant traditionnel hongrois complètement réadapté. Donc, j'aime cette idée, d'une musique qui évolue, ou du moins qui ouvre ses portes vers autre chose, et vers des choses aussi inattendues que la musique traditionnelle, avec des instruments également plus classiques que des instruments amplifiés. Et puis aussi, c'est un groupe qui propose une certaine mélancolie à laquelle je suis assez sensible. Voilà.
Le nom du groupe, c'est des X Cora ou c'est des X simplement?
Non, le nom du groupe, c'est ZX.
ZX, donc ZX. Pour nos auditeurs qui veulent réécouter ces morceaux ou des autres, je pense qu'on pourrait trouver si on tape à T-H-E-X. C'est comme ça que ça
s'écrit? Alors, T-H-E et plus loin, E-X. E-X. Voilà. Ah, okay. Ce morceau-là en particulier, on ne le trouve pas sur Internet, mais en revanche, on trouve d'autres morceaux de ZX et d'autres morceaux de Tom Cora et des deux ensemble. J'ai voulu choisir une dernière chose. Mon premier choix musical s'est orienté vers un groupe punk parce que dans mon parcours, le genre punk, c'est quand même quelque chose qui m'a influencé, quoi. Dans mon enfance, on sortait tout juste du punk. Ou du moins c'était la fin du mouvement punk et le début aussi de la littérature punk et c'est quelque chose qui m'a marqué. Alors la littérature punk n'est pas une littérature nos futurs comme l'a été les groupes comme l'ont été les groupes charismatiques du mouvement punk, mais proposait une vision assez sombre de l'avenir. Et moi, je trouve toujours extrêmement curieux que, près de 40 ans après, on y est. Ce qu'ont écrit les auteurs punk s'est réalisé. Nous y sommes. Nous sommes dans une société comme l'avaient imaginé ces intellectuels punk. Pour moi, c'est fascinant et c'est très déprimant aussi.
C'est pour cela, ce mélange entre nihilisme et mélancolie qui transmet cette musique. Est-ce que pour toi, ça représente ce mélange un peu paradoxal, non, de mélancolie et nihilisme?
C'est plus mélancolie que nihilisme. J'emploierais pas ce mot de nihilisme. C'est une espèce de conscience. Il y a eu une espèce de conscience sur un avenir assez sombre. Où beaucoup de ressorts échapperont aux gens, où les gens seront emportés dans un mouvement qui les dépasse et qu'ils ne maîtrisent pas. Pour moi, tel que je vois notre présent, nous y sommes. Nous y sommes.
On va continuer à en parler, oui. À travers ton œuvre, bien sûr, mais avant d'aborder ton œuvre, et partie de cette émission, c'est aborder l'œuvre d'un autre. Et puisque on est avec la section parler des autres, je préfère te conduire vers deux influences qui t'ont marqué, ou même trois, et que c'est les Bauhaus, le futurisme, et aussi les mouvements manga, si on pourrait appeler un mouvement manga. Et on commence par lesquels, si on a le temps, pour parler des trois, ou tu préfères axer sur un spécial?
Je préfère qu'on parle plus du manga, parce que ça peut-être
on
que
commence
ça,
par les mangas.
Ça, peut-être qu'on commence peut-être par l'autre, et puis on finit par le manga.
Oui, très bien.
C'est vrai que le Bauhaus, le futurisme italien, mais aussi, on va dire, toutes les avant-gardes du début du XXe siècle m'ont fasciné d'abord par leur modernité. Comme le mot futurisme le dit, il y a vraiment l'idée d'aller vers l'avenir, de laisser tomber les vieilles choses, la poussière.
Adieu le passéisme.
Voilà, le passéisme, hein, globalement, cette peinture classique, mais d'intégrer également la technologie dans nos vies. Alors les futuristes en faisaient quelque chose d'extraordinaire, quelque chose même qui allait remplacer peut-être l'humain. Mais voilà, j'ai été sensible à ça, sensible. Alors, ça n'existait pas au temps des futuristes, mais sensible, par exemple, à l'idée que l'art puisse être généré par de nouvelles technologies. Par exemple, les machines à dessiner. Je pense à Tinguely, par exemple, qui n'était pas un futuriste, pas du tout. Mais voilà, il y a une espèce de machinerie qui génère quelque chose qui aboutit à une facture d'art. Mais je pense aussi, par exemple, à l'art du bruit, à l'art des bruits de Russolo, hein, qui aboutit aussi, par exemple, à toute la musique électronique. Mmh. La musique électronique doit énormément à Russolo.
Oui.
Mais aussi la musique concrète.
Donc,
ces gens-là ont été extrêmement visionnaires. Quant au Bauhaus,
avant de passer au Bauhaus, oui. Peut-être pour rappeler à nos auditeurs, le futurisme, c'est un mouvement qui a commencé au début du XXe siècle, en 1910, donc cette fascination pour la vitesse, par la modernité, c'était aussi un contexte historique où l'industriel prenait place, où la machine prenait place, et la production en série. Et donc, en 1910 ou 1909, je crois que c'était le premier manifeste de Marinetti. Donc, c'était déjà une affirmation de rompre avec le passéisme et surtout avec les codes esthétiques du passéisme pour revendiquer cette fascination, on pourrait dire, ou cette idolâtrie vers tout ce qui était la machine, le moderne. Les rapides. Le Bauhaus, je ne sais pas comment on le prononce, c'est Bauhaus, comme on dit.
Bauhaus, oui.
Bauhaus. Et c'est au Weimar, c'est les années 30, c'est un petit peu plus tard. Bon, je te laisse la parole.
Le Bauhaus, c'est peut-être plus. Enfin, on voit toujours le Bauhaus comme une école de design et d'architecte. Mais moi, je retiens plus, en fin de compte, d'autres cours qui ont été dispensés au Bauhaus et qui ont abouti à des expressions d'art. Par exemple, il y avait un atelier théâtre, il y avait un atelier danse également au Bauhaus, qui ont donné naissance à des prestations, à des performances spectaculaires qui m'ont toujours marqué. C'est vrai que le ballet des formes et des couleurs, je trouve ça extraordinaire. J'en ai vu une reconstitution à Beaubourg, et avec des objets marionnettiques, pour moi c'est extrêmement fort. À la fois cette idée que le design peut pénétrer la vie quotidienne et que tout le monde a le droit de posséder des objets de la vie courante, des objets usuels, qui est une facture, une belle facture. Moi, j'ai un petit côté matérialiste, même si chez moi, j'ai pas beaucoup de ces objets-là. Je trouve que c'est joli d'avoir une belle théière, et je trouve agréable de boire du thé dans de beaux objets. Et le Bauhaus, on doit beaucoup au Bauhaus dans cette idée de diffuser, de vivre avec des objets qui nous soient beaux, esthétiquement, qu'il soit agréable à l'œil.
C'est curieux comment les deux courants qui t'ont influencé, d'abord le futurisme, en ordre chronologique bien sûr, et le Bauhaus, et tous les deux, ils ont eu affaire fortement avec la politique, parce que les futurismes avaient été récupérés une partie, mais tu vas nous expliquer un peu plus de cela, et par les fascistes, et Bauhaus a été expulsé par les nazis.
Oui.
Ils ont fait leur carrière aux États-Unis.
Mmh. Je crois que dans les deux cas, pour synthétiser, ce sont des courants qui se sont intéressés aussi aux gens, c'est-à-dire à la relation entre l'esthétisme et la population, ou la relation entre l'art et la population. Donc, que ce soit l'idée de quelque chose de beau ou l'idée de quelque chose qui présente une facture d'art, ça épanouit les gens. Or, dans le régime nazi ou dans le régime fasciste tel qu'il s'installe durement à partir du moment où Mussolini prend le pouvoir, eh bien, on rejette ces idées-là parce que ce sont des idées qui vont libérer le peuple, qui donnent de la liberté. Et ce sont bien des régimes qui vont s'opposer à la liberté individuelle. Alors bon, il faudrait peut-être un petit peu plus préciser la relation entre fascisme et futurisme, qui est une relation complexe, mais peut-être...
On le fera à une autre occasion, oui. Donc, et est-ce que, avant d'aborder les mangas qui te tiennent à cœur, est-ce qu'on pourrait faire une toute petite pause musicale, on passe à ton deuxième choix, que tu nous parles un petit peu de ces choix musicaux et on attaque l'univers des mangas et ensuite ton œuvre, hein, parce que je tiens à parler de Nonoko.
Très bien.
C'est ton pseudo et analyser ton œuvre à partir de ses influences et de tout ce qui te tient à cœur, Hugues Dely.
Alors, il s'agissait d'un morceau du Gagaku. Alors, il faut expliquer, c'est de la musique. Le gagaku désigne à la fois un genre de musique et puis aussi le groupe. Donc, le groupe s'appelle le gagaku et cette musique s'appelle le gagaku également. C'est une musique qui était interprétée à la cour de l'empereur du Japon. Cette musique a la particularité que il n'y avait que l'empereur et sa famille qui avaient le privilège de l'écouter. C'était une musique qui était exécutée uniquement à l'intention de l'empereur et de sa famille. Car c'est une musique également qui parle, qui honore les ancêtres de l'empereur. Alors, comme au Japon, l'empereur est considéré comme un dieu, sa famille, ses ancêtres sont également des dieux, ce qu'on appelle des kami. Donc, ça produisait une cérémonie tout à fait particulière. Et cette musique, donc, jusqu'à le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, personne n'avait eu le privilège de l'écouter. Maintenant, l'orchestre impérial du Japon a la possibilité de jouer sur toutes les scènes du monde et l'empereur a perdu le privilège d'être le seul à écouter cette musique. C'est une musique, personnellement, j'ai eu d'abord le privilège de l'entendre à la Cité de la Musique à Paris dans les années 90. Pierre Boulez avait invité le gagaku et donc ils avaient joué dans une salle extrêmement grande où ils avaient reconstitué un décor japonais. Donc on était installé on pouvait s'asseoir à la japonaise pour écouter cette musique. Et c'est personnellement la musique la plus raffinée qui m'a été donnée d'entendre, raffinée par les silences. C'est une musique qui intègre le silence comme un acte musical extrêmement fort, mais aussi par les variations, par les intensités, et puis par l'importance à la fois du tambour, le son du tonnerre, mais aussi le son du vent, le son de la flûte, le son du vent qui résonne dans les orgues à bouche, donc l'air qui vibre, qui sont autant d'invitations shintoïstes à la méditation, au recueillement, à l'introspection pour mieux découvrir le monde par la suite, quoi. Donc vraiment, c'est une musique, quoi, qui me produit beaucoup de frissons.
Et justement, en parlant des frissons, Hugues, et ça tombe bien que nous ayons cette musique comme une expression de la culture japonaise, parce qu'on avait promis à nos auditeurs parler des mangas. Alors, je pense que ça a tombé comme ça. C'était pas prévu qu'on parle des mangas à côté de la culture, de la musique japonaise de cette époque. C'était, comme tu l'as dit, un moment exceptionnel. Et les frissons pour les mangas, alors?
Alors, pour parler du manga, bon, bien sûr, quand on parle manga, tout le monde pense, enfin, beaucoup de jeunes pensent tout de suite à Naruto, à Kyo, enfin, à des grands titres, à Dragon Ball aussi, d'une certaine mesure, à des grands titres qui sont très connus. Mais concernant, il faut resituer les choses dans le contexte. Moi, j'appartiens à cette première génération qui a été confrontée au manga. D'abord à la télévision, en diffusant des films d'animation pour enfants, qui étaient totalement des ovnis pour l'époque. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et puis aussi par la littérature, le manga, donc la bande dessinée. C'était la fin des années 80, oui, début des années 90. Et puis donc aussi par la bande dessinée, donc la littérature. Alors c'est vrai que moi j'avais la possibilité d'avoir accès aux premiers éditeurs. Je parle même pas de Glénat, je parle à des éditeurs beaucoup plus, moins commerciaux, beaucoup plus ciblés comme Tonkam.
Oui, mais tu parles là déjà en tant que libraire. Mais quand tu étais plus jeune, plus enfant,
oui,
même
tu parles. Je parle de l'enfance.
Ah, tu parles de l'enfance. Ah, je pensais que tu parlais en tant que libraire.
Tonkam, c'était une librairie à Paris, mais c'était aussi un des premiers éditeurs de manga. Et puis un éditeur de manga qui a voulu véritablement éditer en français, en France, ce qui se faisait au Japon, non pas en des termes commerciaux comme l'a fait Glénat, mais en des termes beaucoup plus sensibles, beaucoup plus proches de la culture japonaise. Et puis aussi, j'avais accès à une autre librairie qui était à l'époque la librairie Junko, la seule librairie japonaise de Paris à l'époque, qui, elle, présentait des mangas japonais à Paris. Et moi, ça m'a ouvert un monde complètement différent. Il y a eu un choc de culture extrêmement fort. Et c'est là que je me suis posé la question, mais pour avoir des titres qui ressemblent autant à des ovnis dans notre culture, d'où viennent-ils? Mais quel est ce pays, ce Japon? Quelle est leur culture? Quel est l'environnement de ce pays pour produire de telles choses, alors à la fois des choses très sensibles, mais aussi des choses aussi extrêmes. J'ai lu des mangas en japonais, des mangas d'horreur que je ne connaissais pas, que même les Américains ne produisaient pas, ou des mangas aussi quand on est adolescent, des mangas sur les amours adolescentes, voire un peu plus, sur les découvertes d'adolescents. C'était totalement étranger à la fois à notre culture, mais aussi donc à notre littérature. Donc moi, ça m'a beaucoup interrogé, et j'en ai manifesté une très grande curiosité pour la culture japonaise. Voilà. Donc j'en arrive par exemple à la musique de Gagaku. Alors ça peut paraître pour les fans actuels de manga un peu bizarre, mais si le Japon n'avait pas connu la musique qu'on vient d'entendre, le Gagaku, eh bien sans doute que la production de manga serait très différente aujourd'hui.
Pour revenir donc à ton œuvre et aussi au manga, Hugues, je vais aborder une série des illustrations personnelles qui sont intitulées « Envie d'une exposition ». C'est une série de tableaux que tu appelles ou que tu as intitulé « Gris ». Il y a « Gris marche »,« Gris drap ».
Oui, c'est vrai.
« Gris
oui.
parapluie ». Donc, bon, évidemment, il y a une dominante grise. Mais est-ce qu'on pourrait, bon, c'est un peu comme toujours difficile à transmettre à l'auditeur une image et, par la radio, mais je vais faire quand même une petite description. Non, peut-être les mots sont trop ambitieux. Une petite introduction que tu vas compléter bien sûr, parce qu'il me semble qu'il mérite d'être vu. Et je pense que comme sont encore en vue d'une exposition, ils ne sont pas encore visibles dans les nets, dans ton site, mais c'est pour que vous imaginez un petit peu l'univers de Hugues en tant qu'illustrateur. Alors, ce sont des images où il y a beaucoup de solitude, il y a un seul personnage, beaucoup de fonds libres, et il n'y a pas de mots, il n'y a pas de violence ou d'effets spectaculaires. Un peu comme la musique de Gagaku que nous venons d'entendre, il existe beaucoup de suggestions par les instruments, des sons de la nature. Là, dans les gris, il existe une jeune fille qui joue avec, par exemple, dans les gris marches, qui joue avec sa jupe et les vents. Dans les gris draps, pareil, il y a les vents, toujours. Il y a une présence du vent, de l'air. Et comme si la musique de la nature à travers les vents, c'était la musique la plus exquise, non? Et les gris des draps, c'est encore une jeune adolescente habillée en blanc et qui fait glisser un drap, toujours dans les couleurs claires et fond gris. Et une autre œuvre qui s'appelle Gris parapluie, et la même fille qui montre son parapluie au vent en même temps que sa jupe se dégage de son habit. Et donc, cet univers, on pourrait le dire aussi, qui est japonisant, qui vient un peu de cette influence orientale, Hugues.
Oui, tout à fait, indirectement. C'est évident que le Japon m'a amené une relation avec la nature, une relation avec les choses de la nature. Et dans cette série qui, entre parenthèses, s'appelle « Études au gris » d'ailleurs, les titres que tu disais, c'est des titres génériques pour les sauver comme ça, mais l'ensemble s'appelle « Études au gris ». Donc effectivement, la présence de l'air ou le fait que les personnages soient seuls, c'est quelque chose qui est lié au Japon, effectivement. Alors dans une interprétation occidentale, bien sûr, parce que je suis occidental. Mais ce que je veux dire par là, pour parler de la nature du Japon et de ses œuvres, c'est que en Occident, nous avons perdu notre lien avec la nature réelle, alors que les Japonais l'ont conservé. Nous l'avons perdu par la religion, il y a très longtemps. La religion nous a de plus en plus montré les dangers de la nature, les dangers de la forêt, les dangers de la nuit, les dangers d'être seul dans la nature. Alors que, au contraire, les Japonais ont gardé cette relation privilégiée avec les choses de la nature, avec l'air, avec la pluie, avec l'eau sur la peau. Et moi, c'est des choses qui me touchent, qui me parlent beaucoup. Et j'ai envie, justement, de montrer, à travers des illustrations, des choses aussi difficiles que l'air. Comment montrer l'air, tu vois? Comment peindre l'air? Bon, c'est pas de la peinture, c'est de la 3D, mais comment on pourrait peindre l'air? Peindre la pluie encore, c'est possible, mais peindre l'air. Donc l'idée, c'est de trouver des subterfuges, c'est-à-dire de l'air qui s'engouffre dans un parapluie, de l'air qui va s'engouffrer sur une robe aux formes un peu étonnantes et qui va donner des mouvements à cette robe. Et puis aussi la solitude, parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'intime. Quand on est seul dans la nature, on se retrouve aussi seul avec soi-même et donc confronté à une réalité intérieure qui fait écho à la réalité extérieure, à une réalité simple, nue, de chants d'oiseaux, de caca d'animaux sur la route, de la boue, de la pluie, d'odeurs, de parfums, de bruit aussi, de vent, de choses extrêmement simples, mais très réelles.
Oui, on entend les silences dans cette série gris, et on pourrait dire plutôt grise. Et particulièrement, je suis assez touché par cette série, et ce serait dommage que tu ne puisses pas la partager. J'espère que bientôt tu pourras faire cette exposition ou la mettre en ligne pour que nos auditeurs puissent la voir. Et ces silences, je peux le retrouver dans cette atmosphère de solitude, d'humour discret, d'humour distant. Je le retrouvais aussi dans les autres illustrations que tu as fait, par exemple, pour les droits d'auteur, les droits du lecteur de Pénac. Oui. Et pareil pour une BD que tu as fait sur Trois, il s'appelle Trois, sur les deux jeunes filles qui parlent, bon, dans ces cas-là, et sont assujetties à une histoire, à un scénario. À différence des tableaux dont nous venons de parler, qui sont à eux-mêmes une histoire, en revanche, la BD, ou les planches que tu présentes aussi, sont imprégnées de ces silences, malgré qu'il y a les dialogues, parce qu'il y a des suggestions, même quand il y a un éclat de rire. Mais je les apprécie autant dans les contenus, mais je préfère la série grise. Pourquoi? Parce que la manière comme tu travailles la 3D, il me semble un peu plus personnel. Je t'avoue que pour les autres, ce sont des personnages 3D que j'ai vus ailleurs. Non, peut-être que c'est un modèle qu'on manipule et qui est soumise à une certaine empreinte trop plastique, pas dans le sens art plastique, dans le sens plutôt lisse, et des effets de matière qui sont assez standardisés. Donc, c'est la première critique que je te fais par rapport à la forme de tes illustrations, non par rapport au contenu.
Oui, c'est sûr que dans toute la série que j'appelle les strips, effectivement, tu as raison. C'est le même traitement entre guillemets toon. Alors après, il y a des spécificités suivant les auteurs, mais c'est globalement du toon. Alors que dans la série Gris, effectivement, il y a eu une recherche pour sortir du toon. C'est pas du tout toon.
Toon, ça veut dire quoi, pardon?
Toon, ça veut dire dessin animé, quoi. Mm-hmm. Tu vois, dans cette espèce de rendu un peu plastique, mm-hmm. Ou légèrement velouté, mm-hmm. Avec des personnages qui ressemblent un peu à des poupées, quoi. Mm-hmm. C'est ça le toon. D'ailleurs, toon, je crois que ça veut dire dessin animé.
Mm-hmm. C'est l'apocope des cartoons.
Cartoon, absolument.
Oui, tout à fait.
Cartoon.
Oui.
Et alors que dans la série Gris, il y a cette idée qui est un peu de sortir de ce qu'on voit de toute façon dans la 3D. La 3D, aujourd'hui, sa grande orientation, c'est pas du tout le toon ou le cartoon. Hein. Mm-hmm. Le toon, c'est déjà marginal. La grande orientation, c'est le photoréalisme et même l'hyper réalisme, quoi. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Au contraire, moi, j'essaye d'en sortir. Donc, dans cette étude au gris, il y a aussi cette idée de ramener le spectre de couleurs à vraiment à un minimum, de perdre les couleurs, de perdre l'idée de réalisme. Au contraire, par la diminution de couleurs, on augmente le champ imaginaire, quoi, le potentiel de suggestion.
Merci. On va faire une petite pause parce qu'il nous reste un de tes choix musicaux et j'aimerais l'entendre avant de continuer avec l'analyse de ton œuvre, Hugues.
Dame, je veux m'endurer tant comme je pourrais durer sans penser les durs mordures. Sage loyal, douce plaisant, très beau bébé. Ne jamais vous quérouper, rien dans vos cœurs puis penser que je ne tienne à dure mordure. Dame, je veux endurer tant comme je pourrais durer sans penser les dures mordures. Mordure.
il s'agissait de Guillaume de Machaut, c'est un virelet, j'ai oublié le titre. J'ai une très grande admiration pour Guillaume de Machaut, qui est un auteur et un compositeur du XIVe siècle. C'est un clerc et c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui a beaucoup marqué à la fois son époque, mais aussi les siècles suivants, qui a marqué à la fois comme poète, car c'est vraiment il a écrit plus de 400 poèmes, souvent liés à l'amour courtois. Et ce sont vraiment des textes d'un grand raffinement. Et mais c'est aussi un compositeur tout à fait remarquable, travail qui a aussi marqué les compositeurs précédents, et un mélodiste. Ces mélodies sont d'un très grand raffinement, d'une très grande beauté. En tout cas, moi, je suis toujours très ému d'entendre du Guillaume de Machaut. Voilà.
Merci pour cette présentation, Hugues. Et on ne pourrait pas partir de cette émission, Hugues, sans que tu nous dises un mot quand même sur une œuvre qui soit visible pour nos auditeurs. Tu vas la mentionner, tu vas donner les indications aussi. Si tu pourrais donner aussi l'adresse de ton Facebook. Et aussi, si on a le temps, j'aimerais que tu parles sur cet ami commun que nous avons eu qui s'appelait Armand. Et qu'on a rencontré dans ta librairie quand même, il faut la mentionner, on l'a pas mentionné, la librairie Le Comptoir de Sildavie, où tu vendais des bandes dessinées, des mangas pendant 13 ans, de 2000 à 2013. Et donc c'est à toi, Hugues. On parle d'abord sur la présentation du film et où est-ce qu'on peut le trouver?
Oui. Alors le film il est disponible sur sur YouTube. Alors, j'ai pas l'adresse.
Mais
on la mettra sur le site.
Quand tu tapes Esprit Découvert, voilà, on le trouve tout de suite.
Hein. Ou sinon sur la page de CFM, on mettra le lien.
Oui, bien sûr.
Le film. D'abord, j'aime beaucoup faire des films. C'est pas le seul film que j'ai fait, mais c'est le seul qu'on peut voir. Celui-là, c'est vrai qu'il parle plus particulièrement de Montauban. L'idée, c'était de créer une rumeur urbaine autour des fantômes, et de se dire, il y a parfois à Montauban, dans les rues, au détour d'une place, des rencontres étranges, fantomatiques. Voilà, je suis parti de cette idée-là. Mais pour que ça soit tout à fait sérieux, j'ai inventé je me suis dit, mais ces fantômes-là ne sont pas contemporains. En réalité, ils existent depuis très longtemps sur la place.
Tu as cité 1651, je crois.
Voilà. Alors, pour l'histoire, parce qu'il y a des suites qui sont prévues à tout ça, mais que j'ai jamais eu le temps de faire. L'histoire réelle, dans mon imaginaire, bien sûr, c'est du n'importe quoi. Hein. L'histoire réelle, c'est que lors du premier incendie de la place nationale, qui a éclaté chez un épicier, dans des circonstances étranges que j'ai inventées. L'incendie a réellement débuté chez un épicier. L'idée, c'est de se dire que dans les décombres, par la suite, eh bien, il y a des cadavres qui ont disparu. Et l'idée, c'est que c'est de se dire que lors du deuxième incendie, on a retrouvé les cadavres du premier incendie. C'est un peu macabre, je l'avoue, mais en même temps, vous voyez, ça fait le fondement d'une histoire un peu curieuse. Alors, je dévoile pas tout ce qu'il y a autour, parce que c'est un récit un petit peu plus complexe. Et depuis, en fin de compte, le premier incendie, eh bien, il y a des âmes qui traînent sur la place nationale.
Oui, des esprits.
Et donc, l'idée aussi, c'était d'introduire quelque chose de, pour donner poids à cette histoire, d'inventer quelque chose, qui sème le doute dans l'esprit des gens. Et c'est l'histoire, enfin, c'est l'idée, c'est d'inventer un livre qui s'appelle Le Traité de demi-mort, qui aurait été écrit donc par un Montalbanais qui s'appelle Marubin, je sais plus comment.
Violette
Marubin, Violette, voilà, exactement. Ce Violette Marubin, donc, lui, a écrit ce traité de demi-mort pour témoigner des commandes de fantômes qu'il croisait à Montauban. Hélas, ce personnage a été persécuté lors des dragonnades au XVIIe, et donc a été obligé de fuir Montauban pour s'installer à Amsterdam. Pour s'installer, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin bref, oui, c'est à Amsterdam que son livre a été imprimé. Mmh. Et ce livre que l'on peut voir à la Bibliothèque royale des Pays-Bas contient énormément de témoignages très anciens sur la présence d'esprits étranges qu'aujourd'hui on appellerait des fantômes autour de la place nationale. Donc ce film retrace toute cette histoire, crée bien sûr une légende.
Une quinzaine de minutes au dur.
Oui, voilà, exactement. C'est présenté sous forme d'un reportage qui est peu à peu contaminé par une présence fantomatique. Bien sûr, c'est du n'importe quoi, mais c'est intéressant de constater que, par exemple, tous ceux qui ont vu son film, personne ne croit aux fantômes. Mais énormément de gens ont eu peur. Et c'est la volonté de ce film, de faire peur. Et il y a même quelqu'un, hélas, qui a quelques responsabilités importantes à Montauban, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout, tellement elle a eu peur, et qui, je crains depuis, ait quelques difficultés à m'appréhender, tellement je lui ai fait peur avec ce film. Je m'en excuse.
Donc je rappelle à nos auditeurs, les titres c'est Esprit, avec S à la fin, Esprit pluriel, D, D-E-S, couvert. Parce que tu fais un calembour, non? Esprit découvert.
Oui, tout à fait.
De la découverte, mais aussi des couverts de la place nationale.
Voilà, exactement. Oui.
Et on reste encore quelques secondes pour parler un peu sur ce que tu fais pour la mémoire d'Armand.
Armand Taillé, c'est un artiste, comme on dit en France, un artiste brut, mais comme on dirait aux États-Unis, plutôt un artiste outsider, Montalbanais, qui est décédé il y a quelques années. Déjà du vivant d'Armand, j'avais entrepris un travail pour explorer son œuvre avec des voix quand même un peu plus critiques. Donc là, je me suis dit, je vais créer un site internet pour faire un musée, pour rassembler son œuvre, mais aussi écrire des analyses sur son travail, sur sa vie, sur le personnage, pour essayer de mieux comprendre et d'appréhender ce personnage exceptionnel qui a marqué profondément de très nombreux Montalbanais.
Donc, si les Montalbanais souhaitent t'envoyer quelque chose ou t'écrire par rapport à Armand ou par rapport à les innombrables thèmes que nous avons abordés aujourd'hui, et comment peuvent-ils faire?
Alors, pour Armand, il y a un site internet, c'est Musée Armand. Vous tapez sur un moteur de recherche Musée Armand et on le trouve sans aucune difficulté. Si on veut me joindre, moi personnellement, j'ai quelques travaux qui ont été postés sur mon Facebook. Et pour me trouver, c'est Nonoko HD. Voilà, Nonoko HD, tout sans espace. Et vous me trouverez sur Facebook et le Musée d'Armand. Cherchez sur un moteur de recherche, vous le trouverez sans aucune difficulté.
Merci beaucoup, Hugues. Et merci à vous tous. Nous avons le plaisir de partager avec Hugues Dédi un électron livre en graphisme, musique, film, comme vous avez pu voir, et surtout aussi littérature.
Retrouvez les rendez-vous de Rosendo tous les dimanches à 13h, rediffusion le mardi à 23h, sans oublier bien sûr tous les podcasts sur cfmradio.fr.